Le journal Adia Kipoutou. Règlement de compte dans un carré minier dans le sud Kivu. Des hommes en uniforme envoyés par l'une des familles qui se disputent le carré minier de Bourenga ont attaqué dans la nuit de mardi à mercredi des travailleurs de ces mines. Bilan 2 morts et 1 blessé grave. La commission électorale indépendante va procéder aux consultations avec les partis politiques et la société civile pour fixer le calendrier électoral. Déclaration ce jeudi de l'abbé Malou Malou à l'issue de l'ouverture des travaux d'évaluation du processus électoral à Mbujimayi. À la une également cette recrudescence de la malaria à Lissala. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lissala, sur 5 malades qui se présentent, au moins 3 souffrent de la malaria. Mais il n'y a pas de médicaments pour faire face à cette maladie. Voilà tout pour les titres de ce journal. Les détails, c'est tout de suite. 2 morts et 1 blessé grave, c'est le bilan d'un règlement de compte dans un carré minier dans le sud Kivu. Dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes en uniforme envoyés par l'une des familles qui se disputent le carré minier de Mukungwe ont attaqué des travailleurs de ces mines situées à 60 kilomètres au sud-ouest de Bukavu. Les assaillants ont emporté l'argent et les habits de leurs victimes. Écoutons Jean Bosco Sifourihe, administrateur ad intérim du territoire de Walungu. Il a été joint au téléphone par Charlotte Ngungi Selemani.
La nuit du mardi au mercredi, il y a eu l'attaque de bandes des armées non officiellement identifiées. Ils se sont investis dans les carrés miniers de Mukungwe. Là, il y a un problème. C'était un conflit foncier entre 2 familles. Ça, c'est connu. Il y a la famille qu'on appelle la famille Chungu et la famille Gurengamuzimu. Comme ça, c'est bien connu. Ils vérifient ces carrés miniers. Alors, attendons que la situation soit décantée au niveau de la hiérarchie pour nous donner la position à prendre.
Les militaires forts des forces armées congolaises basées à Mukungwe sont intervenus, mais les assaillants avaient déjà pris la fuite, signalant que la plupart des attaques enregistrées à Walungu proviennent de la colline de Mukungwe. Et puis le général Bob Ngoï, commandant des opérations FRDC en Ituri, a appelé les commandos présents à Bunia à la discipline, à l'observance des règles et des coutumes de la guerre. Ceci en prévision des imminentes opérations dans la région de Tchéi au sud de Bunia. Le général Ngoï l'a dit au cours d'une causerie morale tenue ce jeudi matin à Bunia. Il a également demandé à la population de se désolidariser des miliciens. Le porte-parole des FRDC en Ituri, le capitaine Charles Boyeka, le dit au micro de Jean Kassami.
On leur a demandé maintes fois en langue locale, en swahili, en français, de se désolidariser des miliciens, de quitter ces lieux avant qu'il ne soit tard. On leur a largué même ses communiqués dans leur secteur. Donc, ils sont libres de choisir notre camp et de quitter les lieux des miliciens. Pratiquement partout, il y a des ichis où ils peuvent se rendre à la Monique comme ils le veulent parce qu'ils ont peur des FRDC, que ce soit même les miliciens qui voudraient se rendre au gouvernement. Ils n'ont qu'à choisir là où il y a les gens de la Monique parce que la Monique est à peu près tout autour de ces secteurs-là. Donc, ils peuvent se rendre à ces lieux et après, on va les ramener ici en ville.
Pour leur part, les agences humanitaires onusiennes présentes en Ituri viennent de publier un communiqué de presse conjoint dans lequel elles demandent à toutes les forces impliquées d'assurer que la conduite des opérations militaires ne dérange pas la population. Rendons-nous au Kasaï occidental pour signaler la visite hier du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire sénégalaise. Le général Abdoulaye Fall est allé s'enquérir de la situation du premier contingent de la gendarmerie sénégalaise installé dans les 2 Kasaï dans le camp de la MONUC. Après l'étape de Mbujimayi à Kananga, il a appelé les Congolais à faire confiance à la MONUC pour un vrai retour à la paix. Le général Abdoulaye Fall est au micro d'André Kambala Moujanaï.
Je demanderai aux Congolais de faire confiance à la MONUC, de faire confiance à toutes les personnes qui sont déployées ici pour les aider, pour les appuyer dans la recherche de cette paix que tous dans le monde nous attendons, de cette paix que nous souhaitons, de cette paix que tous les Africains attendent pour le développement de cette Afrique.
La commission électorale indépendante va procéder aux consultations avec les partis politiques et la société civile pour fixer le calendrier électoral. Déclaration ce jeudi du président de cette institution d'appui à la démocratie. Cette déclaration de l'abbé Malou Malou intervient au moment où le secrétaire général de l'ONU a invité la commission électorale indépendante à publier sans délai le calendrier électoral. Écoutez ici l'abbé Apollinaire Malou Malou au micro de Julien Nyamouni.
Qu'est-ce que l'électoral nous ouvre comme horizon? C'est que dès maintenant et la semaine prochaine, nous allons travailler les mesures d'application de la loi électorale et son calendrier. Nous allons procéder à la consultation des partis politiques et à la consultation de la société civile. Et à la fin de la semaine prochaine, dès le lendemain même, j'espère, de la promulgation de la loi électorale. Nous serons à même, je crois, de sortir le calendrier pour que chacun sache à quoi s'attenir. Nous traduisons les exigences qu'on a dans la loi électorale et nous les mettons sur un calendrier. Mais je dois attirer votre attention sur le fait qu'il est demandé à toutes les institutions de la transition, la commission électorale indépendante, la première, d'accélérer le processus électoral parce que le peuple congolais, évidemment, voudrait qu'on en finisse une fois pour toutes.
Pendant ce temps, à Kasumba, les Sao Katanga, on s'active dans les préparatifs des élections. Une trentaine de personnes, membres de la société civile, ont participé à une formation sur le rôle et la responsabilité des acteurs en période électorale. Les personnes formées devront à leur tour sensibiliser la population de la cité frontalière. La séance a été organisée par le réseau ROPI en partenariat avec IFES. La formation a aussi été appuyée par le bureau provincial de la CEI. Denise Mahero pour les détails.
La formation vise à amener les participants à adopter des attitudes qu'il faut avant, pendant et après les élections. Selon le coordonnateur du réseau des ONG partenaires de IFES, ROPI, il s'agit de préparer la population pour que les règles des élections libres, démocratiques et transparentes soient respectées par tous. Jean-Didier Kabongo, coordonnateur de ROPI.
Avant le vote, nous voulons que toute la population sache quand même respecter tous les candidats, qu'il sache aussi bien écouter et analyser les projets de société proposé par chaque candidat, que cette population puisse dénoncer tout acte incivique allant de la corruption, tribalisme, achat de confiance, menace, pouvoir influencer le choix des électeurs.
Et déjà, les participants à la formation de ce mardi sont tombés d'accord sur le fait que les politiciens tentent souvent d'acheter les consciences des électeurs. Voilà pourquoi André Lamba, l'un des participants, s'engage à combattre ces genres de comportements. Chacun doit opérer un choix vraiment libre. Il ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il vous a donné de l'argent ou un tricot. Deux ou trois jours plus tard, ce sera fini et ça n'aura aucun impact. Voilà pourquoi il faut voter pour des gens qui peuvent développer le pays. Le chargé de l'éducation civique à la CEI Katanga a mis l'accent sur le taux de participation aux différents scrutins. Selon lui, il faut réduire le nombre de bulletins nuls ou d'abstention. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Dans le registre sanitaire, notez cette recrudescence des cas de malaria à Lissala dans la province de l'Équateur. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lissala, sur 5 malades qui se présentent, au moins 3 souffrent de la malaria. Mais il n'y a pas de médicaments pour faire face à cette maladie. Les médecins traitants se limitent à prescrire des ordonnances aux malades qui doivent se débrouiller pour se procurer des produits pharmaceutiques. Écoutez le médecin directeur de l'hôpital de Lissala, Christian Itoza, au micro de Ghislaine Nentobo.
Nous enregistrons beaucoup de cas de paludisme, surtout grave, qui nous sont référés de plus de 40 km à la cité de Lissala. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour gérer tous ces cas parce que nous n'avons pas une pharmacie dotée de médicaments. Les derniers lots de médicaments que nous avons réceptionnés de la part de l'UNICEF par le truchement de Caritas International est épuisé. Et ça fait comme ça plus de 2 mois que nous n'avons pas reçu de médicaments en rapport avec la malaria, surtout les cas graves. Compris par des anémies, des agitations, cas qui nécessitent vraiment un suivi sérieux, pas de médicaments, nous ne savons pas comment faire. Nous prescrivons et les familles de malades vont chercher ailleurs en dehors de l'hôpital parce que l'hôpital ne dispose pas d'une pharmacie dotée de médicaments depuis plusieurs mois.
Environ 60 000 ménages, soit près de 300 000 personnes à Kisangani, ont bénéficié de l'assistance du Programme alimentaire mondial durant l'année 2005. C'est le bilan établi par cette agence des Nations Unies pour l'an 2005. Au cours de cette année, le PAM a distribué 3 100 tonnes de vivres, et ce, dans les secteurs de nutrition, assistance aux vulnérables, le programme Vivre contre travail, Vivre contre formation et les cantines scolaires. Bien que le bilan soit satisfaisant, le PAM envisage cette année 2006 à étendre les activités dans les autres coins de la province éloignée de Kisangani. Ali Sawadogo, chef du sous-bureau PAM, au micro de Dorcas Kanko.
Nous avions distribué l'année dernière 3100 tonnes de vivres dans une zone ne dépassant pas environ 105 km autour de Kisangani, et ce qui représente environ 45% de la province, de notre zone de couverture. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que, particulièrement, l'année 2005, nous n'avions couvert que 45% de la zone d'intervention. Nous pensons qu'il y a 55% de toute notre zone d'intervention qui reste à couvrir. Notre zone d'intervention, c'est toute la province orientale, sauf l'Ituri. Donc, nous n'avons pas eu l'occasion d'intervenir beaucoup dans le district de Haute-Ouélé ni dans le district de Bas-Ouélé. Et nous pensons que ce sont des zones où la situation humanitaire est suffisamment grave. Et nous pensons qu'il convient d'intervenir dans ces zones à travers toutes les activités.
Occupation illégale du parc national de Virunga, le vice-gouverneur du Nord Kivu en charge des questions administratives s'implique. Il mène une campagne contre cette occupation illicite. Monsieur Baloumé Touti est allé lui-même dans ce parc pour se rendre compte de cette situation. Le point de Butembo avec Étienne Muhindo.
Le parc national de Virunga est menacé par la population. Plusieurs activités illégales se pratiquent dans ce patrimoine mondial. Tel est le tableau dressé par le vice-gouverneur Baloumé Touti à l'issue de sa visite dans le parc. La population riveraine détruit la forêt par ses activités champêtres. D'autres personnes s'adonnent au braconnage intense des animaux pour avoir de la viande ou pour vendre. Les animaux victimes de cette chasse illicite sont les éléphants, les antilopes, les buffles et les hippopotames, déplore le vice-gouverneur. Le parc national de Virunga est envahi également par les réfugiés venus de l'Ouganda. Leur nombre est estimé à plus de 1400. Depuis 1998, les réfugiés se sont installés avec leurs vaches dans le parc à Karuruma, à territoire de Beni. Pour le vice-gouverneur, l'État doit faire respecter les limites du parc et éduquer la population à la protection de la nature. Etienne Mwindo, Butembo, Radio Okapi.
Un émetteur TV pour le territoire de Kalemie et 5 émetteurs radio pour les 5 autres territoires du district de la Tanganyika dans le nord Katanga. Ces équipements ont été achetés par la MONUC dans le cadre de son programme Projet à impact rapide d'Equips. Bénéficiaire de ce projet, la société civile du Tanganyika, coût total 14 900 dollars américains. La contribution de la SOCITANG, société civile du Tanganyika, s'élève à 900 dollars. Le transport de ce matériel dans les différents territoires est en cours. Fidel Muteba, coordonnateur de la société civile de la Tanganyika, fixe les priorités pour ces nouvelles chaînes communautaires au micro d'Expédite Mwamba Mubi.
Ce projet va d'abord briser l'acclavement médiatique des populations du Tanganyika. Nous étions pas moins de 500 000 personnes. Maintenant, nous avoisinons le million de personnes avec le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Deuxièmement, ça va permettre de sensibiliser les populations au processus électoral en cours actuellement. Les populations ont besoin d'être informées pour le jour et de manière correcte sur ce qui se passe au niveau électoral, au niveau national et au niveau local. Que nous puissions, avec ces radios, assurer l'éducation civique et la culture de paix dans le Tanganyika. D'autre part, il faut également éduquer la population sur les maladies sexuellement transmissibles. Vous savez que les effets de la guerre ont fait que nous avons un taux de prévalence très élevé du VIH-Sida.
Actualité internationale, le Maroc ne pourra pas rejoindre l'Union africaine tant que le Sahara occidental continuera à siéger au sein de cette organisation comme membre à part entière. Déclaration faite hier à Brazzaville par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À noter que le roi de Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, poursuit depuis mardi dernier sa visite au Congo-Brazzaville. Retrouvons justement à Brazzaville notre correspondant Arsène Séverin.
C'est depuis 1983 que le Maroc s'était retiré de l'OIA, aujourd'hui l'Union africaine. C'était pour protester contre le soutien de l'organisation au Sahara occidental. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Ben Aïssa, a rappelé que tant que le Sahara occidental allait siéger à l'Union africaine, le Maroc ne pourra pas la réintégrer. Peu avant cette conférence de presse, les Congo-Brazzaville et le Maroc ont signé des accords dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Dans le domaine de la santé, le CHU de Rabat est jumelé à celui de Brazzaville. La grande nouvelle, la Royal Air Maroc va aider à la création d'une nouvelle société aérienne au Congo-Brazzaville. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que c'était dans le souci de partager l'expérience avec d'autres pays africains que le roi Mohamed VI organise cette tournée à Saint-Séverin-Brazzaville, Radio Capi.
L'actualité internationale, c'est aussi ces élections en Ouganda, le scrutin des premières élections générales multipartites depuis 26 ans en Ouganda, où le président sortant Yoweri Museveni est donné favori. C'est ouvert jeudi matin, accompagné d'un déploiement massif des forces de sécurité, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ouvert à 7 heures locales, dans quelques 20 000 bureaux de vote, le scrutin doit être clos à 17 heures temps universel. Outre leur président, les 10,4 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs parlementaires. Les premiers résultats sont attendus vendredi ou samedi. Okapi. Okapi.
vie.